Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio L'Ardoisière pour cette émission spéciale voyage. Aujourd'hui, nous sommes sur l'île au Trésor, une petite île paradisiaque en plein milieu du Pacifique. Nous tairons l'emplacement exact de cet endroit magnifique pour des raisons évidentes d'un trésor enfoui. Aucun habitant n'est à recenser dans un périmètre d'au moins 5000 km. Pour vous décrire un peu ce que l'on voit autour de nous, nous sommes actuellement à l'ombre d'un fort. Il y a également un petit bois, assez sombre à l'arrière. Une haute colline trône au centre de l'île, la longue vue. Selon la carte, ce serait à cet endroit que les rubis et l'or seraient cachés. Une petite randonnée de ce côté est au programme pour nous après l'enregistrement de l'émission. Cette île constitue le lieu principal de l'intrigue du roman éponyme de Robert Louis Stevenson. Avant de recevoir notre invité spécial, personnage phare de ce roman d'aventure ayant marqué des générations et des générations de jeunes lecteurs, laissez-vous porter au cœur de cet ouvrage grâce à la lecture de deux passages.
Le mouillage est au sud, derrière un îlot, à ce qu'il me semble. Oui, commandant, l'îlot du squelette, qu'on l'appelle. Dans le temps, c'était un repère de pirates. Et un matelot, qu'on avait à bord, connaissait tous les noms qu'ils avaient donnés aux différents endroits de cette île. Cette colline, au nord, c'est le mât de Misaine. Il y en a trois à la file, en direction du sud. Misaine, grand-mât et Artimon. Mais le grand-mât, c'est le plus haut, qui a les nuages au-dessus. Ils l'appelaient d'habitude la longue vue, parce qu'ils y mettaient une vigie quand ils étaient à l'ancre, en train de faire du nettoyage. Car c'est là qu'ils nettoyaient leur bateau. Commandant, sauf votre respect.
Nous arrivâmes à l'endroit même du mouillage qui était indiqué sur la carte, à un tiers de mille de chaque rive, l'île au trésor d'un côté, l'îlot du squelette de l'autre. Le fond était de sable fin. Le plongeon de notre ancre souleva une nuée d'oiseaux criards qui tourbillonnèrent au-dessus des bois. Mais, en moins d'une minute, ils se posèrent de nouveau et ce fut à nouveau le silence. La rade était entièrement fermée par les terres couvertes de forêts dont la lisière était au niveau de la mer à marée haute. Les rives étaient plates et les collines formaient une sorte d'amphithéâtre. Deux petites rivières, ou plutôt deux marigots, se versaient dans ce que l'on aurait pu appeler un étang. Le feuillage dans cette partie de la côte avait une sorte d'éclat vénéneux. Du navire, impossible de voir le fortin ni son enclos, car ils étaient ensevelis sous les frondaisons. Et sans la carte étalée sur le capot, nous aurions pu croire que nous étions les premiers à mouiller en ces lieux depuis que l'île était sortie des flots. Merci d'accueillir Long John Silver.
Capitaine, capitaine Long John Silver.
Oui, capitaine. Pour commencer, présentez-vous en quelques mots.
Capitaine Long John Silver, né il y a plus ou moins longtemps. Ancien maître coq, on dit cuisinier pour les moins marins d'entre vous. Devenu capitaine de l'Hispaniola, pour quelques jours, jusqu'à ce que fichu garnement vole mon bateau.
D'ailleurs, comment vous êtes-vous retrouvé à bord de ce navire ?
En tant qu'ancien marin, mes oreilles sont habituées à certains mots particuliers, comme carte, butin, île du Pacifique. Quand j'ai entendu ces mots sortir de la bouche de John Tremblay, je me suis jeté sur l'occasion. J'ai fait en sorte d'embaucher quelques amis mutins.
Ça n'a pas été trop compliqué de faire engager vos connaissances ?
Ah, bien loin de là. Les initiateurs de cette expédition étaient de piètres organisateurs. J'avais même pas donné des noms qu'ils acceptaient déjà mes offres.
Ah oui, je vois. Et avant d'arriver sur cette île, vous savez combien de kilomètres vous avez parcouru ?
Oh, le marin d'eau douce ! On parle en 1000 marins, nous. Et donc, en partant de Bristol, nous avons à peu près fait 9000 milles nautiques.
Et racontez-moi un peu comment s'est passée votre arrivée sur l'île, la survie, l'ambiance qui régnait avec cet équipage.
Oh là, doucement mon guerre, une question à la fois. Lorsque nous sommes arrivés sur l'île, l'ambiance était un peu tendue. L'objectif de tous était de tout le monde était bien évidemment de découvrir le trésor. En premier, et de se tirer de là en douce après. Mais malheureusement, l'équipage s'est divisé en deux clans. L'un s'est réfugié dans le fort, et l'autre est resté campé sur le rivage, près du bateau.
J'ai entendu parler de la tache noire. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que c'est ?
Durand ! Alors, la tache noire. Lorsqu'on a un traître dans nos rangs et qu'un pirate d'un vaisseau ennemi tue un camarade, alors on lui envoie un papier, avec une tache noire au centre. C'est une menace, un gage d'une mort certaine.
J'ai entendu des bruits de couloirs comme quoi il resterait une partie du trésor encore enfouie sur cette île. Savez-vous où il se trouve ? Ne seriez-vous pas tenté de partir après l'émission prendre ce qu'il en reste ?
Eh, mais c'est que t'en poses des questions, toi ! Cette affaire de trésor ne te regarde pas. C'est une histoire de pirate, et d'après ce que je sache, t'en es pas un.
Ah mais non, 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 ne vous inquiétez pas, capitaine. Ce trésor ne m'intéresse absolument pas, et je n'oserais pas me mettre en travers de vos moussaillons. Je posais simplement cette petite question pour renseigner nos curieux auditeurs qui souhaitent en savoir toujours plus à propos de ce qu'a écrit l'auteur. Une autre petite question que beaucoup de vos lecteurs et de nos auditeurs se posent et qui m'intrigue également. Comment avez-vous perdu votre jambe ?
Oh là, amiral de bateau lavoir ! La vie d'un pirate est faite de haut et de bas. Et heureusement, le rhum est là pour transformer les bas en haut. Et avec tout ce que j'ai bu, comment veux-tu que je me souvienne de ça ?
À la fin du livre, nous avons pu lire que vous vous êtes enfui du navire pour, je cite, « leur sauver la vie, car tant que cet homme a une jambe restée à bord, ils étaient en danger. » Pouvez-vous nous éclairer sur ce propos et ce danger dont il est question ?
Bande de naïfs. Le seul danger couru était bien pour moi. Arrivé à Bristol, j'aurais été lâché devant le juge et condamné à mort, sans même recevoir une seule part du trésor que j'aurais aidé à ramener. Ces canailles ne m'auraient point aidé et n'auraient pas tenu leur parole, donc à quoi bon leur rester avec eux ? Bon, c'est pas bientôt fini votre truc, j'ai d'autres choses à faire, moi.
Ah oui, d'accord, monsieur Silver.
Capitaine, c'est capitaine, sacrebleu.
J'ai juste une dernière question. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur ce lieu plein de souvenirs et d'histoires ?
Ça m'est égal de revenir ici. Des trésors, il y en a plein. Je connais des îles avec un temps beaucoup plus agréable que celui d'ici. À la limite, le jeu de chat et de souris entre les mutins et l'équipage fidèle me donne un peu de nostalgie, mais c'est tout.
En tout cas, merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici et merci d'avoir répondu à nos questions. Avant que je vous livre mes impressions durant ma lecture, nous recevons Marine, une de nos chroniqueuses, voulant partager ses propres sentiments sur le livre.
Salut Jérémy et bonjour à nos auditeurs. Pour être honnête, ce lieu m'a fait rêver. Non mais pour de vrai. Depuis toute petite, une des choses qui me passionne le plus, c'est l'âge d'or de la piraterie. L'idée de trésors enfouis sous du sable blanc me fascine. Voguer sur les océans, découvrir des endroits plus beaux les uns que les autres. Mais il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'univers de la mer. Ça peut paraître ironique quand on sait que je m'appelle Marine, mais c'est la stricte vérité. Petite, je rêvais d'une vie comme Gino Kings. Un vieux loup de mer débarquerait au village avec un mystérieux coffre. Après m'avoir raconté toutes ces histoires, il finirait par me montrer la carte au trésor. Et abandonnant tout derrière moi, je partirais en mer avec mes amis. Nous deviendrions riches. Mais bon, avec du recul, je vivais à 200 km de la mer et la plage la plus proche était Berck-Plage. Autant vous dire que c'était mal parti pour que ça arrive. Mais c'est beau de rêver. C'est donc pour ça que je me suis lancée dans l'aventure aux côtés de l'équipage de l'Hispaniola. Je me suis faite happer par l'histoire. À l'image de Jim, j'étais la mousse du bateau. En effet, l'écriture à la première personne m'a plongée irrémédiablement dans l'histoire. J'ai donc vécu l'histoire en parallèle de lui. Alors qu'il trouvait Long John Silver sympathique, je m'en suis méfiée dès le début. Non mais, c'est vrai, depuis le début du livre, Jim sait grâce à Billy Bones qu'il faut absolument se méfier d'un homme amputé d'une jambe et il tombe dans le panneau comme un bleu. Bon, après tout, le bleu c'est le mousse du bateau. Donc c'est un débutant, donc ça paraît logique. D'ailleurs, ce sentiment d'inconfort face à Long John Silver n'a fait que grandir au long du voyage. Et je vais pas dire que j'avais raison, mais en fait, si. Mais juste après ça, Jim devient un peu un agent double. Il fait comme s'il ne savait pas pour la mutinerie, il descend à terre, il cherche des informations. Et là, j'ai commencé à ressentir ce petit truc dans mon ventre, comme une étincelle. L'aventure est devenue trépidante. Et puis, de la tension entre les mutins et l'équipage fidèle, les risques que prenait Jim pour prendre le contrôle du bateau. Et puis évidemment, le moment de la chasse au trésor. Mon cœur battait si fort que mon Apple Watch n'arrêtait pas de m'envoyer des notifications me demandant si j'étais en train de faire un effort physique. Et oui, je le faisais à travers Jim. Le sentiment d'aventure est celui qui m'a le plus porté au cours de la lecture. Sous ma couette, j'arrivais à sentir l'air iodé et les rayons chauds du soleil sur ma peau. Et quel réconfort durant ces mois d'hiver. Maintenant que je me suis livrée, qu'en penses-tu de faire pareil, Jérémy ?
Après le long voyage parcouru par l'équipage de l'Hispaniola, mon envie de découvrir avec Jim Hawkins était de plus en plus présente. Partir à la découverte de cet endroit inconnu aux yeux de l'auteur et le découvrir avec lui m'enthousiasmait particulièrement. Jim ayant à peine posé les pieds sur le rivage que mon envie qu'il parte à la recherche du trésor tout en l'explorant prit une ampleur et me plongea profondément dans le livre. La description faite par le narrateur me mit dans l'ambiance. Je passais de ma chambre à une plage au sable chaud, puis à un espace marécageux en passant par une clairière long d'un mille avant de me retrouver caché dans des fourrés à l'abri du soleil sous de grands chênes verts. Ce moment de peur exprimé par l'auteur après avoir entendu des bruits me mit dans une ambiance d'angoisse, de suspense, de peur. Qu'allait-il se passer? Qu'est-ce qu'il avait bien pu entendre? L'aventure allait-elle s'arrêter sur une mort du narrateur attaqué par un ours? Heureusement, le suspense ne dura pas trop longtemps et l'aventure se poursuit. Me revoilà parti à travers les pensées de Jim pour continuer à découvrir l'île à travers la peur, l'étonnement, la joie, la déception et la colère pour malheureusement découvrir le trésor qui mena les survivants et l'équipage à quitter ce coin paradisiaque qui m'aura bien fait voyager hors de ma chambre dans mes pensées, mes rêves et mes émotions. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Après une page de publicité, vous pourrez retrouver une ère de musique sans interruption.